Quelle est la distance que vous devez parcourir pour obtenir des soins de santé? Au bout de la rue? Dans un hôpital d'une autre ville? Et pourquoi pas dans une province entièrement différente? Nous entendrons parler des coûts personnels liés à la distance à parcourir pour obtenir des soins de santé. Un nouveau rapport important de l'Institut canadien d'information sur la santé montre qu'un Canadien sur 11 admis à l'hôpital a ce que l'on appelle un fardeau de déplacement élevé, ce qui signifie qu'il n'y a pas de clinique, pas d'hôpital ou encore pas de médecin parlant la langue de son choix, comme José de Sudbury.
Ben, j'ai mon médecin de famille, heureusement, qui est francophone, mais tous les autres spécialistes sont tous anglophones, malheureusement. Donc, c'est très, très, très difficile de trouver quelqu'un en français, à moins de décider d'aller à Montfort, mais prioritairement, on va le faire à Sudbury, même si c'est en anglais.
José devait se faire reconstruire le gros orteil et l'oignon, mais l'aide était terriblement éloignée à près de 6 heures de route de chez elle pour consulter un spécialiste en français. Et il y a des médecins comme Lise Biéré qui tentent de faire la lumière sur les disparités dans l'accès aux soins pour les francophones.
Donc, pour les francophones, il y a un double fardeau. Il y a la pénurie de médecins. On sait qu'à Ottawa, il y a environ 25 à 30 % de la population qui n'a pas accès à un médecin de famille ou qui accède très difficilement. Donc, c'est un problème double pour les francophones en situation minoritaire. Il y a le problème d'accès en général qui est très difficile en ce moment. Et en plus de ça, si on rajoute, disons, le besoin d'avoir accès à un médecin qui parle la langue de préférence du patient, bien là, ça devient doublement compliqué.
Bonjour et bienvenue au balado d'information sur la santé au Canada, la plateforme qui vous fournit de véritables expériences sur des sujets de santé qui comptent pour nous tous. Ici, Ali Agnan, l'animatrice de cette conversation. Rappelez-vous que les opinions et les commentaires de nos invités ne reflètent pas nécessairement ceux de l'ICIS, mais il s'agit d'un échange ouvert. Et celui-ci examine comment plus d'un quart de million de Canadiens admis à l'hôpital parcourent des centaines, voire des milliers de kilomètres, ce qui représente un coût important pour les personnes et les systèmes. Ce phénomène commence tout juste à être identifié dans le but d'apporter des améliorations aux patients et aux systèmes de santé. Bonjour José et bienvenue au balado.
Merci.
Alors José, parlez-nous un peu de votre situation avec votre gros orteil.
OK, j'ai déjà eu 2 chirurgies auparavant et malheureusement, la dernière chirurgie s'est mal passée. Ce qui fait, bon, premièrement, j'ai eu de l'infection. Deuxièmement, la vis qu'on m'a installée est plus droite et est rendue en diagonale. Ce qui fait que ça détruit toute la forme de mon pied. Il a fallu que je me rende chez mon ancien médecin de médecine sportive pour trouver des alternatives, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que ici, dans ma ville, il n'y avait absolument rien qui était possible. Et donc, il a fallu que je me batte pour avoir maintenant une référence à un orthopédiste qui est uniquement spécialisé au niveau du pied et de la cheville. Donc, comme ça, ils vont pouvoir me replacer, enlever ma vis et replacer et réinstaller complètement 2 prothèses dans mon pied.
Donc, si je comprends bien, vous demeurez à Sudbury, mais pour la reconstruction de votre gros orteil, il va falloir que vous vous rendiez à Ottawa.
Exactement.
Et vous n'avez pas pu avoir un spécialiste qui parle français à Sudbury?
Non, ni français, ni un spécialiste qui est vraiment spécialisé 100% dédié au pied parce que c'est une chirurgie qui est très complexe.
Et comment voyez-vous cette situation, le fait de devoir aller jusqu'à Ottawa pour pouvoir vous faire cette reconstruction?
C'est sûr que ce n'est pas une situation qui est facile parce qu'il faut penser que je suis à distance. Il faut penser la température aussi. Donc, j'attends mon rendez-vous pour voir exactement la façon qu'ils vont procéder et tout ça. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on est obligé de faire des démarches, bon, au niveau pour le transport, pour l'hôtel, parce qu'ils ne payent pas l'hôtel. Ils ne payent que le kilométrage. Ou, si un exemple, on y va en avion, ils vont le payer. Donc, c'est quand même une situation, bon, c'est un pied, donc je ne peux pas marcher comme je veux. Je ne pourrais pas conduire parce que c'est le pied droit. Donc, ça implique plusieurs choses. Donc, autant pour mon conjoint, il va falloir qu'il se loge pendant ma chirurgie. Combien de temps je vais rester là-bas, donc j'ai aucune idée. puis m'assurer que je suis correcte pour le transport. Donc, si je prends l'avion, ben, je suis en connexion avec Toronto avant de monter à Sudbury, ce qui est plus complexe. Donc, il m'apparaît peut-être plus facile l'auto, mais faire 5 heures minimum de route après une chirurgie de reconstruction d'une partie du pied, ben, je ne sais pas. Donc, je trouve ça très difficile, les situations, pour avoir vraiment des spécialistes.
C'est clair. Et quand vous dites il paye, vous parlez de qui exactement?
C'est le ministère, c'est le fonds de transport pour les gens qui demeurent dans le Nord. Donc, on doit appliquer. Donc, un coup qu'on a fait les démarches, on a été voir le spécialiste ou le médecin qui était référé. Ben, à ce moment-là, il faut avec toutes les. On n'a pas besoin de porter les factures parce qu'ils vont payer que le transport. Donc, dans le fond, si j'ai été en avion, bon, je vais fournir les preuves. Si j'ai été en auto, bien évidemment, c'est le kilométrage qui nous paye. Il nous donne 100 $ par jour. Mais si je calcule l'essence, la nourriture et l'hébergement, il ne ça paye jamais l'hébergement. Donc, on est toujours en déficit, malheureusement, par rapport à.
Donc, je dirais qu'il y a une partie qui est prise en charge, mais tout n'est pas pris en charge.
Non, pas du tout. Il n'y a pas de taux. Si un exemple, le ministère ferait des avantages comme des ententes. Lorsqu'un patient se déplace pour aller voir un spécialiste, ben à ce moment, peut-être avoir des taux privilégiés que ça coûte moins cher vu qu'on paye ça une partie de nos poches. Donc, ça se fait vraiment bien par rapport à ça. Mais il n'y a rien qui est fait, il n'y a rien qui laisse sous-entendre qu'ils vont faire des démarches. On est laissé à nous-mêmes pour faire ça.
Je comprends. On pourrait dire que voyager pour se faire soigner ajoute un fardeau financier, mais également émotionnel. Pouvez-vous un peu m'expliquer sur ce côté émotionnel? Comment vous vous sentez, le fait de devoir faire une aussi longue distance pour vous faire soigner?
Bien, c'est sûr que c'est insécurisant. Bon, il y a sur la route, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se produire. Il faut prévoir d'avance, donc dire OK, on va partir la veille, parce que si mon rendez-vous est à 10 heures le matin et que ça me prend 4 heures de route, en exemple, pour me rendre, bien, il faut que je planifie tout ça. Donc, c'est toujours de la logistique, mais c'est du stress toujours à penser. Bon, il faut que je sois à l'heure, il ne faut pas que je rate mon rendez-vous. Si on a un accident, si on a un flat, bien, il faut s'organiser comme ça. Donc, il faut toujours prévoir le tout. Donc, oui, puis si on se dit, ben, si le médecin y arrive pour une raison, il y a une urgence, il est obligé d'opérer, ben moi j'arrive là, puis je suis comme le médecin n'est pas là. Donc, c'est toujours des stress additionnels qu'on ne sait pas l'incertitude ou l'inconnu, dans le fond, de ce qui va se passer. Donc, oui, c'est tout mis ensemble. S'il nous dit bon, OK, je t'envoie faire des examens, donc je ne peux pas partir la journée même, mais le lendemain, le ministère ne nous défraiera pas pour la nuit supplémentaire non plus.
Et en général, mis à part cette reconstruction que vous devez faire, est-ce que vous arrivez à avoir un médecin qui parle français à Sudbury?
Non. Ben, j'ai mon médecin de famille, heureusement, qui est francophone, mais tous les autres spécialistes sont tous anglophones, malheureusement. Donc, c'est très, très, très difficile de trouver quelqu'un en français, à moins de décider d'aller à Montfort, mais prioritairement, on va le faire à Sudbury, même si c'est en anglais. Donc, il faut se battre pour avoir, même quand j'ai eu ma hanche artificielle, la documentation est en anglais. Puis, c'était marqué disponible en français. Puis, Sudbury est désigné une zone bilingue selon la loi des services en français. Même lors d'hospitalisation, on va entendre une infirmière qui va servir des patients de l'autre côté du corridor, qui va parler français à ses patients en français. Moi, j'ai dit que j'étais francophone, mais moi, j'ai anglophone. J'ai demandé, ben, vous ne pouvez pas échanger les patients. Non, c'est son département. Moi, chez mon département, tu vas être servi en anglais. Donc, c'est très, très, très difficile de se battre pour le français. Ça, c'est vrai.
Je comprends. Alors, José, si nous faisons ce balado, c'est notamment pour parler des difficultés liées au déplacement. Alors, j'aimerais savoir, que souhaitez-vous que les gens sachent, c'est-à-dire sur les solutions à ce fardeau de déplacement?
Oui, je pense que le ministère devrait mettre en place des ententes avec certaines régions, parce qu'il y a des spécialistes, pour l'hébergement, pour avoir des taux peut-être préférentiels pour nous aider à combler ce manque financier. Ça, je pense que ça serait super important. Ou qu'il y ait des endroits spécifiques qu'on peut aller rester. Ça, je pense que c'est un gros, gros manque. Par la suite, il faut, je pense, je dirais à toutes les personnes qui vont se déplacer, quand ils ont un refus, de ne pas. Je sais que, bon, je suis travailleuse sociale, je me bats pour mes clients, je me bats pour moi-même. Donc, mais je leur dirais de ne pas laisser tomber. Même s'ils disent qu'il y a un refus qui ne couvre pas ça ou qui refuse leur réclamation, de continuer d'argumenter, de chercher des preuves. Puis je sais que ce n'est pas tout le monde qui est capable de le faire, que des fois, des gens sont seuls, qui sont démunis. Donc, c'est de faciliter tout le processus aussi. Il faut envoyer ça par la poste. Alors que j'ai un bureau à Sudbury, pourquoi ça ne se fait pas directement comme des réclamations d'assurance voyage, par exemple? On met tout en ligne et automatiquement, tu es sûr, on a une confirmation que les documents sont bien reçus, que j'ai un numéro de dossier automatiquement. Donc, ça, je pense que ça serait un gros point à améliorer sur tout le système de cette subvention-là de transport qu'il faudrait qu'ils mettent en place. Je pense qu'avec la technologie d'aujourd'hui, on doit absolument avancer et être proactif.
Parfait. Et au-delà de ces solutions que vous venez de nous donner, est-ce que vous en voyez d'autres qui pourraient peut-être aider à éviter le déplacement? C'est-à-dire vous déplacer parce que vous n'avez pas un médecin francophone à Sudbury qui pourrait faire la reconstruction, donc vous êtes obligé de vous déplacer et d'aller jusqu'à Ottawa. Et est-ce que vous voyez des solutions qui pourraient vraiment éviter oui. Le déplacement?
Bien, c'est que s'il y aurait des ententes inter-hôpital, on va dire, que si, un exemple, il y a des chirurgies programmées vraiment spécialisées, mettons qu'il y a quelqu'un de North Bay et quelqu'un de Sudbury, bien, que le chirurgien puisse venir dans mon hôpital numéré, donc North Bay et Sudbury, c'est à 1 heure et à peu près 1 heure et 10, c'est quart de transport, plutôt que cette région-ci, aller à Ottawa. Donc, s'il y aurait des ententes inter-hôpital pour nous faciliter ça, je pense que ça ferait déjà un plus parce qu'on n'est pas obligé de défrayer des frais auprès du ministère. On est chez nous, donc on peut retourner chez nous, le conjoint peut aller chez nous. Donc, tu sais, je pense que ça faciliterait aussi s'il arrive que, comme post-opération, retourner parce que suite à ma deuxième opération dans ce pied-là, j'ai une grosse infection, donc je n'ai plus mon rang à Sudbury. Il y avait mon dossier. Dès que je vais être opérée, en tout cas, je retourne à Sudbury. Tu sais, j'ai une infection, je vais me rendre à Sudbury, mais ils n'auront pas mon accès à mon dossier. Donc, ça va être une autre complication pour que je pense. Donc, j'avais le choix peut-être d'aller à Toronto pour cette chirurgie-là, mais c'est en anglais. Puis, selon la complexité, bien, je pense, moi, je préfère d'être servi en français. Ça, c'est clair et net et précis parce que tu as toujours les termes techniques. Tu veux exprimer la douleur. Tu n'as pas nécessairement les termes en anglais pour le faire. Donc, ça, il y aurait plusieurs possibilités, mais que le médecin puisse avoir des ententes inter-hôpitaux pour faire les chirurgies. Ça ferait une grosse différence pour les patients. Et le ministère ne sera pas obligé de défrayer.
Et ça vous prend à peu près combien de temps pour vous déplacer jusqu'à Ottawa?
C'est environ 5 heures si on arrête, mettons, 5 minutes pour aller à la toilette et prendre un café. Mais si on arrête manger, ben c'est sûr que c'est plus de temps. Donc, puis après une chirurgie, ben, tu sais, rentrer à la salle de bain avec des béquilles, etc. Non, c'est pas. C'est quelque chose qui est complexe à penser aussi. Toute Hearst, Timmins, toutes ces villes-là, Dubreuilville, etc., sont des villes qui sont francophones, qui doivent venir ici se faire soigner. Donc, si en plus, ils doivent être soignés en anglais, bon, c'est pas toujours évident non plus. Et les spécialistes sont à moitié spécialistes.
Parfait, je comprends. Alors, José, je vous souhaite bonne chance pour votre reconstruction. Et merci beaucoup d'avoir participé au balado.
Merci.
Nous avons maintenant Dr. Lise Biéré qui se joint à nous depuis Ottawa. Bonjour, Dr. Biéré. Bienvenue au balado.
Merci beaucoup, Alia.
Alors, Dr. Biéré, vous avez mené une étude pour déterminer les inégalités causées par le fardeau des déplacements dans l'accès aux soins primaires pour les francophones et le grand public à Ottawa, en Ontario, ainsi que les inégalités d'accès entre les groupes linguistiques et les quartiers ruraux. Pourquoi avez-vous décidé de mener cette étude?
Donc, à la base, on a de plus en plus de données probantes qui démontrent que ce qu'on appelle la concordance linguistique, donc le fait que le médecin, l'infirmière, etc., ou le prestataire de soins de santé parle la langue de préférence du patient, ça, c'est très important pour non seulement la qualité des soins, mais pour les issues pour les patients. Alors, depuis à peu près 5 ans, il y a de plus en plus d'études qui se sont penchées là-dessus, autant que possible, parce qu'il y a beaucoup de limites au niveau des données. Et on en vient à la conclusion que la concordance linguistique est très importante. Et puis, non
En
seulement
effet.
pour la satisfaction des patients, mais aussi pour des issues là, très mesurables. Et ça va jusqu'à une mortalité réduite pour des patients qui sont hospitalisés et qui proviennent là, des soins de longue durée, par exemple. Donc, des gens très fragilisés et s'ils reçoivent les soins à l'hôpital dans la langue, par un médecin qui parle leur langue, ils ont en fait une mortalité réduite. Ça, c'était une étude qui a été faite par des collègues, qui a été publiée en 2022 dans CMAG, donc le journal de l'Association médicale canadienne. Alors, on a ces données probantes-là qui nous montrent que la concordance linguistique est importante. Alors, nous, on a dû se pencher là-dessus. On a commencé avec un petit top 3 qui nous a permis de faire ces travaux-là, premièrement, en grandeur de la région d'Ottawa. Et depuis, on a pu élargir et puis appliquer cette méthode-là à la grandeur de l'Ontario.
Et alors, pouvez-vous nous donner un bref résumé et quelques-uns des principaux résultats de votre recherche?
Oui, alors on a trouvé, disons, dans notre première étude au niveau de la ville d'Ottawa, qu'il y avait des temps de déplacement plus élevés pour les francophones. Dans le cas de cette première étude-là, on s'est penché en utilisant des données de Statistique Canada, donc des données publiques de recensement. On s'est penché sur la minorité francophone qui ne parle pas l'anglais. Donc, on a vraiment pris les gens les plus vulnérables ou du moins les plus à risque de ne pas avoir des soins là, dans leur langue. Puis, on a regardé leur fardeau de déplacement et on a vu que c'était effectivement plus élevé que pour les anglophones. Ça varie selon les quartiers, ça varie selon si les gens dans le centre urbain d'Ottawa, en banlieue ou bien en région rurale. Et on a aussi regardé sur une carte, et puis ça se voit mieux évidemment là, avec une image qu'on n'a pas en ce moment, mais on a pu identifier quels étaient les secteurs, les quartiers d'Ottawa où la proportion de francophones unilingues était la plus élevée. Et également où le temps de déplacement était le plus élevé.
Avez-vous été surprise par les résultats de votre recherche ou saviez-vous déjà que les francophones d'Ottawa subissaient un fardeau en matière de déplacement?
Disons que ça a confirmé une part de notre hypothèse qu'il y aurait une différence entre le fardeau de déplacement pour les francophones et celui pour la population en général. Ce qui nous a surpris, par contre, c'était la distribution. Quand on regarde ça sur la carte qu'on a produite là, dans notre rapport d'étude, on voit que certaines régions, en particulier dans l'Est, où il y a une plus grande proportion de francophones, en fait, le fardeau de déplacement là était parmi les plus élevés. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il y avait une plus forte proportion de francophones, mais leur accès aux soins en concordance avec la langue était pire que dans toutes les autres régions, d'autres quartiers de la ville d'Ottawa.
Parfait. Et docteur Biéré, pouvez-vous me donner des exemples de ce que vous ont dit les patients participant à l'étude au sujet du fardeau des déplacements auxquels ils ont été confrontés?
Alors, cette étude-là dont on parle, et puis celle aussi qu'on a faite là, à la grandeur de l'Ontario, c'était pas une étude localitative avec des entrevues de patients, etc. C'est une dimension importante, mais on n'avait pas le budget nécessaire pour aller faire une étude avec cette approche-là, parce que c'est beaucoup plus onéreux. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'était simplement une étude en utilisant des données disponibles publiquement, donc sur la population des données de Statistique Canada, de recensement, et également des données disponibles publiquement sur les médecins, donc l'enregistrement au tableau des médecins pour le Collège des médecins et chirurgiens de l'Ontario, qui a permis de déterminer les langues rapportées par les différents médecins.
Docteur Biéré, vous êtes médecin de famille à la clinique médicale Active Care à Canada, en Ontario. Et avez-vous des exemples personnels de votre clinique concernant le fardeau que représentent les déplacements pour vos propres patients?
Oui, absolument. J'ai des patients qui voyagent des fois plus qu'une heure pour venir me voir parce qu'ils ne trouvent pas de médecin. Ils trouvent pas de médecin dans leur localité ou proche de leur lieu de résidence. J'ai des patients qui viennent de Brockville, de Renfrew, de Perth, etc. Je pense qu'il y a un double problème. Il y a un problème au niveau, tel qu'on mentionnait avant, de trouver un médecin qui parle la langue de préférence du patient. Donc oui, j'ai des patients francophones, mais je n'ai pas que des patients francophones. Au contraire, j'ai la majorité de ma pratique, c'est des patients anglophones, parce que les médecins voient toute la population sans, disons, trier ou choisir ou filtrer. Donc, pour les francophones, il y a un double fardeau. Il y a la pénurie de médecins. On sait qu'à Ottawa, il y a environ 25 à 30 % de la population qui n'a pas accès à un médecin de famille ou qui accède très difficilement. Donc, c'est un problème double pour les francophones en situation minoritaire. Il y a le problème d'accès en général qui est très difficile en ce moment. Et en plus de ça, si on rajoute, disons, le besoin d'avoir accès à un médecin qui parle la langue de préférence du patient, bien là, ça devient doublement compliqué. Et oui, ça occasionne souvent des fardeaux de déplacement assez importants. Ça a un impact sur comment on est capable de donner les soins aux patients.
En effet. Alors, docteur Biéré, comment cette barrière linguistique pour ces personnes francophones unilingues peut-elle affecter leur état de santé? Avez-vous des exemples?
Certainement, ça peut affecter l'état de santé de toutes sortes de façons. Et puis, on sait que, bon, alors il peut y avoir des délais dans le diagnostic parce que les gens retardent le moment où ils vont chercher justement l'aide dont ils ont besoin. Ensuite de ça, on sait que dans certains contextes, particulièrement des personnes fragilisées là, qui viennent de résidences de soins de longue durée, qui se retrouvent à l'hôpital, on remarque qu'il y a une différence entre, même ça va jusqu'à une différence de mortalité entre ceux qui reçoivent des soins d'un médecin qui parle leur langue comparé à ceux qui ne reçoivent pas ces soins-là. Et puis, si on regarde au niveau de la satisfaction également, avec les soins. Il y a vraiment là, des différences pour les patients, mais aussi on oublie pour les prestataires de soins de santé, pour les médecins, le personnel soignant, etc. Et c'est difficile, ça prend plus de temps. Quand on n'est pas certain si le patient a compris, on se pose des questions, etc. Donc, ça a un impact sur tout le processus de soins. Sur l'accès, sur la qualité, sur les issues des patients. Et sur la satisfaction là, des patients et du personnel traitant.
Parfait. Et dans votre étude, vous faites référence que les personnes qui ne parlent que le français peuvent avoir des difficultés à accéder aux services en dehors de la province de Québec, même si de nombreuses villes en dehors du Québec ont une population francophone importante. Dans quelle mesure cette question vous préoccupe-t-elle?
Mais encore une fois, on revient, disons, aux données probantes qui nous montrent l'importance de l'accès aux soins en concordance avec la langue pour toutes les raisons qu'on a nommées avant, sans parler du cadre législatif, là, qui a aussi là, un rôle à jouer. Donc, je pense que c'est important de quantifier, de mesurer qu'est-ce qui se passe, de savoir où sont, d'une part, les patients, ou quelle est la demande pour des soins dans la langue de la minorité et d'autre part aussi de savoir où sont les prestataires de soins et dans quelle langue est-ce qu'ils sont capables de fournir des soins. Donc, c'est important de se pencher là-dessus parce que si on ne mesure pas les choses, on n'est pas en mesure de savoir, premièrement, ce qui se passe et deuxièmement, on ne peut pas mesurer est-ce qu'il y a une amélioration avec le temps, est-ce qu'il y a une détérioration. Donc, ce qui m'amène à mentionner l'importance des données, parce que si on veut mesurer quelque chose, il faut avoir des données pour pouvoir le faire. Donc, d'une part, on a besoin de savoir où est la population et quelle est la langue de préférence des patients. Ça, on peut le faire jusqu'à un certain point avec des données Statistique Canada, ce qu'on a utilisé pour nos études. Mais quand on est en contexte en clinique, en hôpital, etc., Souvent, on n'a pas de données sur la langue de préférence du patient qui permettrait, par exemple, d'apparier les patients avec les quelques médecins ou les infirmières qui parlent, par exemple, le français. Et dans la plupart des provinces canadiennes, malheureusement, on n'a pas l'information sur la langue de préférence du patient sur la carte de santé. Il y a des endroits où c'est le cas, entre autres l'Île-du-Prince-Édouard et on me dit également le territoire du Nord-Ouest, où on a écrit sur la carte santé la langue de préférence du patient. C'est pas le cas en Ontario et ça serait extrêmement utile autant pour les soins du côté clinique que pour la recherche et l'évaluation. Donc, c'est une information qu'on encourage vivement le gouvernement à rajouter sur la carte santé quand les gens renouvellent leur carte santé.
En effet. Et dans son rapport, l'ICIS a notamment examiné le fardeau que représente le fait qu'une personne sur 11 dans l'ensemble du Canada doit se déplacer pour obtenir des soins. Et c'est particulièrement difficile pour les personnes vivant dans des communautés éloignées, où une hospitalisation sur 4 entraîne un fardeau de déplacement très élevé, c'est-à-dire qu'il faut se rendre dans un endroit très éloigné. Et donc, ce problème touche de nombreuses personnes qui ne parlent pas l'anglais, forcément. Parlons des solutions. Comment voudriez-vous essayer de résoudre ce problème?
Je pense que comme pour beaucoup de problèmes complexes, il n'y a pas une solution unique. Il y a une multitude de solutions qui doivent probablement être mises en place simultanément. Alors, je pense que de plus en plus, ça commence avec la formation des prestataires de soins de santé. Par exemple, à l'Université d'Ottawa, on a depuis presque 2 ans maintenant un programme de formation de pharmaciens en français. Donc, on sait que quand les gens sont formés dans une langue, ils sont beaucoup plus aptes à se sentir capables et compétents pour prodiguer des soins dans cette langue-là. Alors, la formation est importante. Également, si on parle de personnel formé à l'étranger, il y a des gens qui ont été formés en français à l'étranger. Alors, capitaliser là-dessus, c'est certainement une option. Une autre option, c'est de regarder qu'est-ce qu'une forme hybride, si on veut, de soins virtuels et de soins sur place pourrait contribuer. Donc, par exemple, dans les communautés éloignées où on n'a pas la population suffisante pour avoir un médecin à temps plein, si on pouvait avoir accès à une infirmière sur place, mais avoir des consultations virtuelles avec un médecin qui parle la langue des patients, bien ça serait un pas en avant. Puis je pense que de plus en plus avec l'intelligence artificielle, il faut regarder aussi, il y a des outils de soutien qu'on peut utiliser pour faciliter soit la traduction ou la transcription des conversations qui pourraient être mises en place et qui sont utilisées dans d'autres juridictions de façon beaucoup plus généralisée. Je pense à certains États des États-Unis où c'est plutôt, disons, la peur des litiges qui les oblige à ne pas utiliser les membres de la famille comme traducteurs, mais bien à l'institution, l'hôpital ou la clinique doit avoir un service d'interprétation officielle, soit virtuelle ou avec une personne sur place. Donc, je pense qu'on a beaucoup de chemin à faire pour améliorer, d'une part, la prestation des soins, idéalement dans la langue du patient, et si ça, c'est pas possible, de systématiser l'accès aux services d'interprétation.
Parfait. Et ma dernière question, docteur Biéré, pensez-vous qu'il suffirait d'avoir plus de médecins francophones au Canada? Et est-ce réaliste?
Ça aiderait, mais je pense qu'il faut être très réaliste. Il y a une étude toute récente qui est sortie, qui a été publiée en janvier, par Santé Canada, qui a montré qu'on a un déficit actuellement d'environ 23 000 médecins de famille au Canada au total. Donc, un déficit énorme, ça représente à peu près la moitié là, des effectifs actuels qui manquent essentiellement. Et on a des énormes problèmes au niveau de simplement d'avoir un nombre suffisant de médecins en général, point, même si on ne regarde pas la concordance linguistique. Alors, comme je disais tout à l'heure, on a une espèce de double problème. On a un problème d'effectif et d'accès. Et en plus de ça, si on rajoute l'aspect linguistique, c'est doublement compliqué. Alors, ça passe par plusieurs, comme je dis, ça passe par beaucoup, beaucoup de solutions qui vont justement de la formation jusqu'à l'utilisation des technologies là, d'intelligence artificielle pour soutenir l'interprétation, par exemple, en clinique. Mais on a besoin de décisions politiques qui soutiennent là, une augmentation des effectifs très, très importante parce que le Canada est en queue de fil si on compare aux autres pays de l'OCDE. On forme depuis des décennies trop peu de médecins. Le Canada forme environ 7 nouveaux médecins par 100 000 habitants par année. La moyenne pour l'OCDE, c'est 14. Et puis des pays comme le Danemark en forment environ 22. Donc, on peut voir pourquoi on a un déficit actuellement, c'est que ça fait très longtemps qu'il n'y a pas assez de médecins de former pour subvenir aux besoins de la population. Donc ça doit être une décision, évidemment, politique.
Parfait.
Et Alia, il y a une chose que j'aimerais mentionner, c'est que résultat de notre première étude sur Ottawa, sur l'accès pour les francophones unilingues d'Ottawa, on a créé un outil qui s'appelle trouverunmédecin.ca, donc trouver avec un Z. En anglais, c'est DocMapper, DocMapper.ca. Et ce que c'est une carte interactive. Au début, c'était seulement pour Ottawa. Et maintenant, parce qu'on a obtenu d'autres fonds pour élargir nos études, on a maintenant élargi la carte à la grandeur de l'Ontario. Et on espère bientôt rajouter d'autres provinces. Et c'est non seulement les médecins de famille, mais tous les spécialistes par spécialité. Et on peut rechercher selon la langue. Évidemment, on peut chercher pour un médecin francophone, mais on a aussi toutes les autres langues rapportées, parlées par les médecins en Ontario. Donc, les patients peuvent se diriger vers ce site web-là, trouverunmédecin.ca, et puis chercher un médecin qui parle leur langue dans leur quartier, dans leur ville, dans leur région. Pour ceux qui s'intéressent, disons, aux travaux qu'on fait sur l'accès aux soins et sur l'accès aux soins en concordance avec la langue, il y a le site web de notre laboratoire et ça s'appelle Accès, santé et innovation. Donc, en anglais, c'est healthaccessandinnovation.ca.
Parfait. Information très utile pour nos auditeurs. Merci beaucoup, Dr. Pierret, pour votre participation. C'est très apprécié. Pour en savoir plus sur le rapport sur le fardeau des déplacements, consultez le site web icis.ca. C'est le ICIS.ca. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre balado sur votre lecteur préféré. Ici, Annie Agnan, à très bientôt.